de faire la prière d'introduction.
Prions. Père éternel, nous apprécions encore ce soir ces moments agréables que tu viens de nous accorder. Nous voici réunis autour de toi, Papa. Comme Marie, nous avons, par ton aide, choisi ces moments de nous asseoir à tes pieds, Papa. Voilà pourquoi je vais te dire merci pour mes frères et sœurs déjà connectés et les autres qui vont nous rejoindre, même d'autres qui nous suivent à la radio, Seigneur. Père, laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire, conduise tout et chacun. Seigneur, inonde nos cœurs. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Père, nous demandons que tu remplisses par ton Esprit Saint, le modérateur, notre pasteur, Papa, qui va nous conduire dès le début jusqu'à la fin. Je bénis tout un chacun qui est présent, Papa. Parle et nous voulons t'écouter. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, ma soeur, pour la prière. Frères et sœurs, nous avons le texte de ce soir. Il est relativement long. Genèse 36, nous allons lire tous les chapitres, c'est-à-dire tous les 43 versets qui nous sont proposés ce soir. Et cette méditation va être accompagné de deux questions. La question numéro 3, que nous connaissons très bien, un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Donc, pendant que nous lisons ou que nous écoutons la lecture, que ces questions nous aident évidemment à attirer notre attention sur un aspect ou un autre de ce que le Seigneur veut nous montrer. C'est le frère Médard qui va nous aider à faire la lecture.
Merci, pasteur, pour la parole. Nous allons lire dans Luc 2, postérité d'Ésaü. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Héthien, Oholibama, fils d'Ana, fille de Tzibéon et de Hévien. Et Basmath, fils d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz, Basmath enfanta Reuel. Oholibama enfanta Jeush, Jaalam et Coré. Ce sont là des fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Reuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepo, Gaétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Reuel: Nahath, Zérakh, Shamma et Mizza. Ce sont là les fils de Basmath, fils femme d'Ésaü. Voici les fils de Oholibama, fille d'Ana, fils de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jeush, Jaalam et Coré. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, les chefs de Théman, le chef Omar, le chef Tepo, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaïtam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils d'Ada. Voici les fils de Reuel, fils d'Esaïe, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs ici de Reuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmav, femme d'Esaïe. Voici les fils de Olibama, femme d'Esaïe, le chef Jeus, le chef Jaïlam, le chef Coré. Ce sont là les chefs ici de Olibama, fille d'Ana, femme d'Esaïe. Ce sont là les fils d'Esaïe, et ce sont là leurs chefs de tribu. Esaïe, c'est Édom. Voici les fils de Séir, les Horiens, anciens habitants du pays, Lotan, Scobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etzer et Disham. Ce sont là les chefs de Horiens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam, la sœur de Lotan, fils Timna. Voici les fils de Scobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepo et Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Anna. C'est cet Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Olibama, fils d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshbam, Jistra et Karen. Voici les fils de Ter, Bilam, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishon, Uts et Aran. Voici les chefs de Orient, les chefs de Lotan, les chefs Scobal, les chefs Tibéon, les chefs Anna, les chefs Dishon, les chefs Etzer, les chefs Dishan. Ce sont là les chefs des Orients, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérak de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Kénamites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Matsreka régna sa place. Samla mourut et Saoul de Rehoboth sur le fleuve régna sa place. Saoul mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor mourut et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville était Paou et le nom de sa femme Métabiel, fils de Matred, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Esaü, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jehed, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mipsa, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations dans les pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père d'Édom. Amen.
Amen. Amen.
Merci, frère Médard. Le texte était
Oh mon nom.
relativement long et beaucoup de
Oui.
noms parfois difficiles à prononcer, mais le frère Médard a très bien fait ça. Merci beaucoup.
Je
En
vous en
fait,
prie.
beaucoup des choses sont présentées là dans ce texte que moi je diviserai en deux parties. La première qui irait du verset 1 au verset 8. Qui nous présente la postérité, la famille d'Ésaü pendant qu'il était dans les territoires des Cananéens. Et puis ensuite, les tribus ou les différents territoires et les générations qui ont suivi après lui, c'est ce qui va du verset 9 jusqu'au verset 43. Dans ma méditation ce matin, la ligne conductrice de la réflexion était, pour moi en tout cas, l'essence de la bénédiction de Dieu. Je me souviens que cet Esaïe a beaucoup pleuré pour réclamer la bénédiction à son père, la bénédiction qui avait été chipée par son frère. Et je ne sais pas s'il avait conscience du fait qu'il le recherchait, la bénédiction de Dieu. Nous allons peut-être, si vous avez été comme moi, nous pouvons aller dans cette piste-là pour pouvoir comprendre c'est quoi la bénédiction de Dieu. Les textes que nous avons sous les yeux nous montrent que c'était un homme très riche aussi, comme l'avait été son frère. C'était un homme avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, un homme qui a été matériellement à l'aise, mais un homme qui ne portait pas le projet de Dieu. Dans tous ces textes, il n'y a pas de place pour Dieu. Il ne nous est même pas dit qu'il a parlé un seul instant à un de ses enfants de pouvoir penser à Dieu. C'est ce que nous montrons, d'où la réalité, disons, la question de savoir, pour moi, qu'est-ce que j'entends par être béni de Dieu. Nous pouvons aussi explorer d'autres pistes, comme notre sœur Flore du Gabon nous a fait le commentaire en trois parties. Elle a parlé d'abord des mariages sans Dieu. C'est une très bonne piste que nous pouvons explorer aussi. Et nous pouvons voir aussi comment le Seigneur a chassé de ce territoire Ésaü et sa postérité pour ne pas handicaper l'œuvre que Dieu allait accomplir à travers Jacob et sa postérité. Et puis ensuite, nous pouvons voir comment est-ce qu'au fait Dieu a rendu aussi possible accessible certaines choses de biens matériels à cet homme, malgré que ce n'était pas quelqu'un qui portait le projet de Dieu. Le projet de Dieu, pour nous résumer, frères et sœurs, Dieu voulait se constituer un peuple duquel allait sortir le Messie, un peuple qui avait la mission de révéler aussi Dieu à toutes les autres nations, comme aujourd'hui, le Messie étant venu. Le Seigneur Jésus nous a laissé aussi une mission, un projet d'aller et de faire des nations, ses disciples. Et le FIMES s'inscrit dans cette mission du Seigneur parce qu'en méditant la parole, en l'enseignant au peuple de Dieu, nous nous inscrivons dans le projet de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, en gros, quelques pistes des réflexions, de méditation que nous pouvons explorer ce soir. Rapidement, un coup d'œil. Je n'ai pas l'impression que j'ai de nouvelles personnes que je peux présenter ce soir. Voilà. Alors, nous avons 2 minutes pour faire notre partage. Et si nous en avons encore à dire, nous pouvons redemander la parole par la suite. Voilà, frères et sœurs, la parole nous est donnée. Alors, j'aimerais commencer avec avec le verset, donc dans la première partie de ce qui va de verset 1 à 8. Je ne prends pas tous les 8 versets, mais je veux juste aller avec une première idée qui est dans le verset 1, parce que c'est une idée qui va être un peu exploitée plus tard. Il s'agit de la postérité d'Édom. Je vois que cet homme, Ésaü, qui est aussi appelé Édom, ce n'était pas un homme à la rue. En fait, c'est un homme qui n'a pas été béni de Dieu, dans un sens que Dieu ne lui a pas permis d'avoir, disons, d'être porteur de ce qu'il avait à cœur d'accomplir. Mais c'est pas aussi un homme qui a été pauvre. Quand je considère les possessions qu'il avait, il a eu plusieurs femmes, il a eu beaucoup d'enfants, et plus tard, nous verrons effectivement que des chefs et des rois sont sortis de sa lignée. Ça me fait réfléchir effectivement à la réalité de posséder des choses, mais de ne pas être avec Dieu. Avoir tout ce qu'on peut avoir sur la terre, avoir tous les plaisirs du monde, avoir tous les biens du monde, mais manquer Dieu. Comme un peu dans tout le reste de ce chapitre où nous n'avons vu aucune place faite à notre Dieu. Avant de continuer, j'aimerais donner la parole au frère Thomas.
Oui, je vois au premier verset, il a pris ses femmes et il est parti quelque part. Alors moi, je suis un peu déçu quand même de Isaac, parce que je ne peux pas comprendre qu'il mangeait toujours les gibiers que lui amenait Esaü. Et il était prêt même à le bénir comme premier fils. Mais on dirait que le comportement d'Isaac ne suggère pas qu'Isaac a pris le temps d'éduquer ses enfants pour dire il faut garder une seule femme dans la vie, il ne faut pas épouser les femmes des nations païennes. Nous sommes un peuple mis par mon père Abraham était comme ceci, comme cela, Dieu lui est apparu, moi Dieu aussi m'a béni et vous mes enfants vous devez être d'une certaine manière. Mais on ne voit pas ça. Au contraire, on voit que quand il a grandi, il a eu 40 ans, la Bible dit qu'il a pris des femmes parmi le peuple de Cana, et cela a déplu à son père, mais on ne voit pas qu'il a eu une certaine éducation, une certaine interdiction, et qu'on sort. Donc, je suis un exemple à ne pas suivre. C'est de ne pas laisser nos enfants faire comme Esaü a fait en Genèse 26, 34, quand il était 40 ans. Il est sorti, il a épousé les femmes, la femme ici, Bérida, la Hittite, et puis Bessama, la fille d'Elon, la Hittite, et tout ça. Ce qui était une source de griffes pour ses parents, mais on ne voit pas une certaine éducation de la part du papa qui aimait manger son gibier pourtant. Merci.
Merci frère, c'est une bonne remarque. Évidemment, le texte ne nous donne pas beaucoup de détails sur la manière que Isaac et sa femme avaient élevé leurs enfants, mais ça montre quand même, comme vous venez de dire, il aimait le gibier de cet enfant-là, mais en retour, l'enfant semble n'avoir aucune considération pour Dieu. Cet enfant que le père était prêt à bénir. En fait, c'est une très bonne remarque, frère, que nous fassions nous aussi attention pour ne pas agir comme ce couple l'avait fait. Merci beaucoup. Papa Célé, maman Christine, vous avez la parole.
merci beaucoup pour la parole, Papa José. Il y a une personne qui est à l'écran, qui est invisible, mais qui existe, c'est Papa José des États-Unis.
Ah, merci.
Ça va.
Oui. Alors, je vais lui demander, il veut parler avant moi ou après moi?
Non, je veux parler après toi.
Merci.
Ah oui.
Donc, je suis très interpellé par ce texte, dès même le début, le premier et le deuxième verset. Interpellé parce que nous sommes en train d'étudier une personne qui a reçu la malédiction au lieu d'être de recevoir la bénédiction. Donc, tous les chapitres que nous sommes en train d'étudier, du début jusqu'à la fin, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de biens, avec beaucoup... C'est une personne qui n'a pas reçu la bénédiction comme Jacob. Et donc, ça commence par « Voici la postérité d'Ésaü ». Au contraire, on pouvait, dès le départ, nous présenter la stérilité d'Ésaü. Mais on commence par nous présenter la postérité d'Ésaü, un homme maudit. Et ça m'interpelle au plus haut point pour dire, le monde, des fois, nous nous trompons en voyant une personne qui a des enfants, qui a beaucoup de biens, nous pensons, voici la bénédiction. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Voilà, nous sommes en train d'étudier une personne maudite, qui n'a pas reçu la bénédiction, mais qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup de femmes, qui a beaucoup d'enfants. Ceci m'enseigne quelque part que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le bien de ce monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Même si les biens peuvent venir, mais ce n'est pas ça la bénédiction selon Dieu. Amen.
Amen. L'apôtre Paul nous le disait que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la bénédiction de Dieu va au-delà des possessions, au-delà des réalités visibles. C'est pourquoi vous faites bien de pouvoir attirer notre attention sur l'idée de bénédiction. Je pense que, encore une fois, porter le projet de Dieu, c'est ça vraiment être béni, être associé à l'activité, à l'action, au plan, au projet de Dieu, c'est cela vraiment être béni. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, pasteur. Je suis au verset, toujours à la première partie, mais je vais dire un mot sur l'attitude de ces deux enfants d'Isaac. Nous savons ce qui s'est passé. Le plus jeune est allé chez l'oncle qui est devenu beau-père. Nous savons les conditions dans lesquelles il est parti. Il est rentré, il croyait trouver de la flamme auprès de son frère, mais nous avons vu que il y avait de larmes qui étaient sorties de part et d'autre. Et le plus âgé a essayé d'entourer le frère. Le frère, le jeune frère, a montré ce qu'il a dit, c'est vrai, les enfants, les bêtes. Et le plus âgé est parti. Alors, ces deux hommes étaient toujours en contact. Parce que lorsque ils sont venus tous les deux enterrer leur père, sans
animosités. Et voilà que, au verset 6, le plus âgé se retire. Il va dans une autre région, il laisse son jeune frère parce qu'ils ont beaucoup de biens et il ne veut pas, qu'il y ait des problèmes entre les deux. Ce n'est pas dit dans la parole, mais à voir le contexte, on peut dire que non, il n'a pas voulu qu'il y ait de chevauchement entre les deux. Il est parti. En un mot, ce que moi j'ai appris ici, c'est que il est bien vrai que l'homme est choisi par Dieu, c'est Jacob. Et l'autre n'a pas été choisi. Et pourtant, Dieu a su les garder en bonne relation. Dieu a su. Et aussi, Dieu, en laissant partir le plus âgé, il n'a pas voulu qu'il y ait des problèmes. C'est le Seigneur qui a arrangé et c'était parti de cette manière. C'est pour dire, bien-aimé, que dans certaines situations, nous nous dérangeons parfois pour rien. Laissons le Seigneur agir de foi. Et quand il agit, il n'y aura pas d'intercelle que lorsque nous-mêmes, nous essayons de faire. À supposer que l'un d'eux parle là-bas. Papa est mort. C'est moi qui étais béni. Non, moi, c'est le plus âgé. On aurait pu avoir des intercelles. Mais Dieu s'est arrangé, s'est occupé, et les choses sont allées comme nous voyons. Donc, en un mot, que de fois je laisse le Seigneur agir dans ma vie, au lieu que je fasse moi-même. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Cette histoire de la séparation entre les deux nous rappelle ce qui était advenu entre Abraham et Lot. La même raison est évoquée aussi ici, c'est l'abondance des troupeaux qui était considérable et la cohabitation devenait impossible. Encore une fois, comme pour Abraham, Abraham a laissé aussi agir Lot en lui demandant de décider de quel côté il allait partir. Mais dans ce cas ici, on ne nous parle pas qu'ils se sont parlé, mais c'est l'autre qui a été, selon moi en tout cas, poussé par Dieu à partir. Remarquons aussi, frères et sœurs, que lui, c'était un homme qui était resté dans le territoire de Canaan. C'est de là que tous ses enfants ont été nés, tandis que 11 des 12 enfants de Jacob sont nés à l'extérieur de ce territoire-là. On peut voir effectivement que Dieu a fait de la place à Jacob pour habiter dans le territoire. C'était un territoire de la promesse, un territoire que Dieu avait promis à Abraham. Et c'est Joseph, c'est Jacob qui doit en posséder les limites. Alors, on peut voir qu'effectivement, Dieu va pousser Ésaü à partir de là, afin évidemment de faire place à son frère. Ainsi, le projet et le plan de Dieu peuvent avoir place, peuvent avoir lieu, peuvent se réaliser sans interférence. Merci beaucoup, pasteur José. Je vais encore revenir un peu au verset 6 et 7. Parce que ce sont ces deux versets qui montrent effectivement, je vous ai dit au départ que ma méditation ce matin était avait une ligne conductrice, la bénédiction, l'essence de la bénédiction de Dieu. Et quand je vois que vraiment sur le plan matériel, sur le plan visuel, ils ont eu tout ce qu'il fallait en tout cas avoir. Et je me dis que il faut que je, en fait, que je me pose la question, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples en disant que ce que vous devez faire, votre préoccupation devrait être le royaume et la justice de Dieu. Et si vous le faites comme ça, a dit le Seigneur, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, ce qui me conforte, ça m'enracine encore dans cette conviction que le royaume de Dieu est le projet que le Seigneur a placé dans le cœur de ceux et celles qui lui appartiennent, et ils doivent le porter haut et fort, tout ce que nous faisons, les emplois que nous avons, les activités que nous avons à faire, doivent avoir la finalité, l'épanouissement, la propagation du royaume des cieux. Je vais donner la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa, pasteur José du Canada, pour la parole. Je voulais partager versets 9 à 14. Nous voyons un aspect aussi au niveau de la famille. Quand le mariage n'a pas été fait, le mariage a pris place sans Dieu. Et on ne fait que nommer. Voici les enfants qui sont venus de Ésaü. Et on parle de femmes, et le verset 12 souligne même des concubines et on donne leurs enfants. Je crois que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu présent dans notre manière de faire les choses, nous verrons l'ordre. Et quand Dieu n'y est pas, il y a un désordre. Et quand Dieu n'y est pas, il y a comme si nous sentons il fournit un effort d'accomplir quelque chose. Et pourtant, quand Dieu est là, c'est Dieu qui travaille à travers nous. Je préfère que Dieu puisse travailler à travers moi, au lieu qu'il puisse, ici on voit comme il se débrouille. Il se débrouille en faisant ceci. Même pour avoir des enfants, on se débrouille. On parle combien de femmes il s'est marié avec, et tout cela parce que ils veulent atteindre un but. Mais pourtant, c'est Dieu, la bénédiction, ça vient de Dieu. Je n'ai pas un effort à fournir. Merci.
Merci beaucoup, frère. Au pasteur Omar Christine, vous avez encore la parole.
Oui, merci encore pour la parole, papa José. Je regarde en fait le verset à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je constate une chose. D'abord, le mariage qui s'est produit entre Ésaü et ses femmes, les femmes cananéennes, ce mariage a donné, ils ont eu beaucoup d'enfants, mais je constate que leur Dieu, ce sont le bien. Leur Dieu, ce sont le bien. Pourquoi? Parce qu'aucune fois on le voit en train d'invoquer Dieu, en train de se confier à Dieu, maintenant que nous allons quitter, que Dieu nous précède, maintenant que nous allons faire ceci, que Dieu fasse cela. Donc, leur Dieu, c'est vraiment le bien de ce monde. Et le véritable Dieu qui leur donne le souffle, qui leur a donné le souffle de vie, qui leur a tout donné, il est mis dans les oubliettes. Alors je me dis, mais quel est mon Dieu à moi aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas comparable à cette famille qui a pris les femmes païennes, et les femmes païennes n'ont rien à enseigner aux enfants concernant Dieu? Ésaü lui-même est emporté dans le bien au point où Dieu n'existe pas. Ce sont le bien du monde qui est la base de leur vie du début jusqu'à la fin. Là, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Amen.
Amen. C'est vrai. Il n'y a aucun monument à l'intention de l'Éternel Dieu qui est attribué à Ésaü. Il n'y a aucun altar qui est fait effectivement pour Dieu, comme un peu on peut voir pour Jacob. Il faut aussi reconnaître que si le Seigneur lui-même n'était pas aussi intervenu directement dans la vie de Jacob pour lui parler et se révéler à lui, on ne sait pas vraiment ce que Jacob serait advenu. Mais ce qui est une bonne chose ici, c'est que le Seigneur s'est révélé à lui et il a embarqué, il a accepté de porter le projet de Dieu. Le frère Thomas, tout à l'heure, a dit que le père de cet enfant, de cet Ésaü, voulait manger le gibier, on a lu cela. Mais en retour, qu'est-ce que cet enfant a reçu du père? En termes d'enseignement, d'enseignement religieux, d'enseignement de la foi, de toute évidence, les conséquences ici, nous les voyons, il n'y a pas eu en tout cas grand-chose. C'est vrai qu'à l'âge où il avait été, il est adulte, il peut prendre ses propres décisions, mais lorsqu'on enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre pendant qu'il est enfant, le Seigneur nous garantit que quand cet enfant sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça montre qu'évidemment, il y a eu, en tout cas, il manque quelque part. Je vais donner la parole au frère Thomas.
Oui, bien-aimé, moi, je suis en train de regarder le record que nous avons sur Esaü, la malédiction qu'il a reçue. Le record que nous avons, c'est Genèse 25, 34, où il a vendu le droit de naître sur de la soupe. Et la Bible dit, il a mangé, il a bu, il s'est levé, puis il est parti. C'est ainsi qu'il a méprisé le droit de naître. Ensuite, on le voit épouser des femmes étrangères, Genèse donc 26, 34. Dans le Nouveau Testament, on va nous dire ceci. L'écrivain du Nouveau Testament sur le livre d'Hébreux, au chapitre 12, il va dire « Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit de naissance. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. » Donc, au fait, le péché de ce monsieur ici, c'est la débauche avec les femmes et profaner les valeurs de Dieu. Donc, aujourd'hui, si on se dit chrétien, est-ce que ce n'est pas possible? Mais il était docile. Il cherchait la nourriture à son père, même jusqu'à sa vieillesse. Il faisait la chasse et aidait les parents. Il travaillait dur. Mais la Bible conclut qu'il était profanateur et débauché. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas, est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut dire « je suis chrétien », mais il travaille dur, mais il est dans la pornographie, peut-être dans la séduction, dans l'impudicité, ou peut-être profaner les choses de Dieu. Pendant qu'on sait, on dirait qu'on travaille pour Dieu, mais certaines attitudes que nous avons peut-être peuvent profaner les valeurs de Dieu. Donc, on nous avertit que de ne pas être comme lui, mais ce qu'il a fait, c'est de la débauche et profanation des valeurs de Dieu. Mais ce n'est pas loin d'un chrétien, de quelqu'un qui se dit chrétien aujourd'hui. Merci.
Merci, Frère Thomas. Être profane, en fait, c'est en opposition à la moralité, à la droiture, l'intégrité, à la spiritualité selon Dieu. Être, en fait, en opposition, effectivement, à la sainteté de Dieu, c'est être mondain. D'où tous ces qualificatifs qui peuvent être, disons, la sexualité qui n'est pas axée sur la volonté de Dieu, etc. Donc, c'est être vraiment mondain, faire des choses à la manière du monde plutôt qu'à la manière de Dieu. Merci beaucoup, frère. Vous voyez avoir vu la main du pasteur Richard, encore?
Non, c'était une main laissée, pardon.
Merci. Est-ce que vous voulez intervenir?
Oui. Merci, pasteur. Bien aimé, j'aimerais avoir quelque chose à partager sur Dieu, l'attitude de Dieu. Notre Père, il n'est pas cité ici. Nous avons 43 versets. Son nom ne figure nulle part. Mais moi, je vois l'action de Dieu sur la vie de cet homme, comme nous voyons dans ce chapitre. Dieu, selon le Seigneur Jésus, est celui qui fait pleuvoir. Il donne la pluie à tout le monde, que ce soit à ceux qui croient en lui, que ce soit à ceux qui ne croient pas en lui. De même pour le soleil. Et ici, on peut prendre la pluie, le soleil, comme étant les biens de ce monde. Que notre Dieu, il est vraiment notre Dieu parce que il est ouvert à tout le monde. Et il peut aider tout le monde, il aide tout le monde. Sauf que pour le cas présent, comme nous savons, c'était un homme maudit. Lui, c'était maudit. Mais un maudit que Dieu a pris soin. Peut-être que cet homme pouvait regarder le ciel. Même si la bénédiction n'est pas la sienne, mais il aurait pu, avec tout ce qu'il a, regarder le ciel et lui dire merci. Voilà, je m'arrête ici, bien-aimé.
Merci beaucoup. Il est vrai que le Seigneur Jésus nous a appris que le Père fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Et que ça montre tout simplement que Dieu est le pourvoyeur. Il pourvoit, il donne, il prend soin de sa création, il prend soin de son peuple. Rappelons-nous que Paul dit aux Romains que Dieu nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore nous-mêmes des pécheurs, c'est à ce moment-là que Christ est mort pour nous. Nous ne le connaissions pas encore, mais lui, il s'est révélé à nous, il nous a vraiment aimés. Il ne nous a pas aimés aujourd'hui parce que nous l'aimons, non. Il nous a aimés bien avant que nous l'aimions. Et c'est pour cela qu'on peut évidemment avoir cet aspect, sous ce point de vue-là, le Seigneur a constamment pourvu aussi aux besoins de Ésaü, qui aurait pu aussi évidemment reconnaître Dieu dans tout cela. Il a possédé beaucoup de biens. Et lorsque nous voyons vers la fin de ce texte, dans le verset 40 à 43, nous pouvons voir que plusieurs chefs sont descendus de lui. Donc Ésaü a eu, évidemment, il a été, disons, un landlord assez puissant en tout cas, pour que des rois et des princes viennent de lui. Il a dominé sur les clans, les régions. Il ne faut pas oublier, au début du texte, on nous dit qu'il a déménagé de Canaan vers la montagne de Séir. Et cette montagne-là n'était pas vierge, c'était un endroit où des gens habitaient. Certainement que lui, il arrive, il domine sur ces personnes-là. Dieu a rendu cela possible pour lui aussi. Il y a à peu près 11 chefs dont il est question vers la fin du texte. Donc ça montre combien il a matériellement disposé évidemment de la faveur de Dieu à certains égards. Mais au-delà de tout cela, frères et sœurs, la question demeure, notre réflexion demeure toujours. Est-ce que je voudrais bénéficier de tout cela, de tous les biens matériels, avoir une bonne promotion au travail, être toujours en santé, posséder, avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de biens, beaucoup d'argent et manquer Dieu? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que moi j'appelle? Qu'est-ce que je considère la bénédiction de Dieu? Et c'est clair, encore une fois, au risque de nous répéter, cherchons à nous approprier du projet que le Seigneur a. Le Seigneur Jésus nous a laissé un plan, une mission, et il nous a demandé d'aller et d'accomplir cette mission-là. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons la facilité, frères et sœurs, d'atteindre des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Regardez-nous, nous méditons ce soir, mais lorsque nous voyons où est-ce que nous nous trouvons les uns les autres, nous pouvons nous parler en direct, nous pouvons atteindre des personnes qui sont à des centaines de milliers de kilomètres de nous. Et si nous pouvons soutenir ce ministère, nous allons nous situer exactement dans l'optique que le Seigneur voulait que l'Église soit. C'est-à-dire, et parler à toutes les nations, les enseigner de ce que le Seigneur lui-même nous a prescrit, et c'est ainsi que nous pouvons aussi hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner la parole au frère Thomas.
Bien-aimé, merci pour la parole. Je suis au verset 6. Esaü a pris ses femmes, ses fils et ses filles, et tous les gens de sa maison. Il est parti loin de son frère. Il est allé quelque part de très très loin de son frère Jacob. Le frère Jacob, c'est lui qui est béni, mais lui est parti loin, loin. Alors moi, je me dis, est-ce que je m'approche de la personne qui est bénie ou je m'éloigne? Mm-hmm. Quand je m'approche des gens qui ne sont pas bénis, je suis en train de m'éloigner des gens de la foi, de l'Église. Je ne peux pas avoir les deux côtés à la fois. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se font des amitiés avec les païens, mais ils ont des difficultés de vivre avec les frères et les sœurs. Mais avec les frères, il n'y a que des troubles, des accusations, mais on est à l'aise avec quelqu'un qui est en dehors de la maison. C'est anormal. C'est anormal. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mm-hmm. La Bible dit que je ne dois pas m'associer avec ceux qui font le mal, mais je dois me dégager, me séparer d'eux pour que je reste dans la maison de Dieu. Parce que dans la première église, ils étaient appliqués à l'enseignement, à la communion fraternelle, au partage du pain, à la prière. Ils étaient assidus au temple tous ensemble. Donc, l'une des caractéristiques du chrétien, d'enfant de Dieu, c'est être assidu à l'assemblée de justes, ici au Fimestre, à l'église, à l'étude biblique, à une conférence chrétienne à laquelle on passe. C'est nécessaire que le chrétien ait ce désir dans son cœur. Mais s'éloigner de la maison, ce n'est pas bon. Et s'approcher de la maison, c'est bon pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là, quand nous sommes ensemble avec le Seigneur, que c'est ici que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Merci.
Merci, merci encore, frère Thomas. Il y a une autre main, ce sera la dernière. Est-ce que c'est le frère Jean-Baptiste?
Oui, pasteur, c'est moi.
Oui.
Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Je voulais abonder dans le même sens que le pasteur José des États-Unis par rapport à cette postérité d'Ésaü. D'ailleurs, lorsque je méditais, je me suis rendu compte que Dieu est réellement fidèle. Dieu avait promis à Abraham une postérité nombreuse. Abraham a vu Isaac, il a vu Ismaël, mais Abraham n'avait pas vu Jacob ni Ésaü. Mais il est mort avec cette promesse. Dieu lui avait promis une descendance. Parmi tant de promesses, il y avait aussi une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Et je vois, nous avons vu les chapitres précédents, déjà la lignée de Jacob, comment elle s'est dessinée. Aujourd'hui, je vois la lignée d'Ésaü, comment elle se prend forme. Donc, je réalise vraiment la fidélité de Dieu. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit les effets. Amen.
Merci, frère, pour cette intervention. Mais en même temps, le Seigneur, par Paul, plus tard, nous a expliqué que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas Israël. Parce que le vrai Israël, c'est ceux qui descendent d'Abraham et qui ont la foi. C'est comme ça que cette postérité, effectivement, biologiquement, elle commence à prendre place, à s'agrandir, etc. Spirituellement, cet Ésaü, il s'est mis en tout cas en quarantaine lui-même. Excusez-moi, papa Thomas, est-ce que vous voulez intervenir?
Oui, j'ai un sujet de prière lorsque vous êtes autant avant de prier. J'ai besoin de prier spéciale.
Ok, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Donc, on peut voir, cet Ésaü, il a eu quand même quelques occasions de pouvoir faire bien. Vous vous souvenez de quand il avait remarqué que en épousant les deux premières femmes cananéennes, ses parents étaient attristés, mais il a voulu bien faire en épousant la troisième femme, Basmat, fils d'Ismaël. Certainement qu'il s'est dit, si je prends une femme dans la famille de mon oncle, certainement ça va faire plaisir à mes parents, mais en réalité il s'est enfoncé davantage. En fait, il a tenté de faire le bien, mais il a manqué toujours des perspectives spirituelles. Il a agi constamment à l'extérieur de ce que on pouvait attendre de lui selon la perspective de Dieu. Frères et sœurs, puissions-nous demander au Seigneur de nous donner l'intelligence spirituelle. En voulant toujours bien faire les choses, Ésaü s'est enfoncé davantage en s'éloignant. Même encore une fois ici, on vient de voir la décision qu'il prend de s'éloigner de son frère. À bien des égards, on peut dire, oui, Dieu a fait une place à Jacob dans le territoire, mais au fait, ça montre aussi que Ésaü avait une certaine conscience que son père était vraiment béni de Dieu. Mais en s'éloignant de lui, en fait, il se coupe encore d'une certaine possibilité de connaître Dieu, d'être en fait au contact avec Dieu. Il s'en éloigne. Puissions-nous en tout cas avoir l'intelligence de nous approcher de Dieu à travers les hommes et les femmes qui sont bénis de Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Je vais donner la parole au frère Thomas, et puis ensuite nous écouterons les annonces.
Oui, bien aimé, j'ai besoin de la prière. Un cousin germain qui vivait en France est rentré à Kinshasa parce que leur société, une grande autorité, la femme d'une très grande autorité, a pris leur marchandise et elle a refusé de payer et ils avaient beaucoup de problèmes donc dans la société. Et avec les embêtements de gens, il est mort subitement, mais et son père, en apprenant cela, est aussi mort. J'ai une autre cousine qui est leur grande sœur. Si on lui dit que cela est arrivé, il y a Julie qui est du campus universitaire, mais actuellement en Afrique du Sud, elle risque aussi de craquer. Et la petite sœur que j'ai au Canada m'a appelé qu'elle veut mourir à cause de tout ça. Donc c'est une situation quand même bizarre. On a déjà deux cas de deuil sur place à enterrer à Kinshasa. Donc j'ai besoin de la prière.
Mmh. Merci beaucoup, frère. On est de cœur avec vous. Puisse le Seigneur tendre sa main et consoler, soutenir, fortifier, et que les deux personnes qui sont encore qui sont en difficulté puissent être entouré évidemment par la droite triomphante de notre Dieu. Je demanderai au pasteur Richard s'il pourra élever la voix après les annonces pour prier pour ce cas et aussi prier pour l'assemblée au complet. Papa Célé, est-ce que nous avons des annonces?
Oui, merci Papa José. Juste deux annonces. La première, c'est saluer les frères et sœurs qui sont très nombreux en train de suivre à la radio depuis Missouri, North Carolina et puis au Canada. On voit plusieurs villes de Québec, on voit Alberta, on voit Ontario, tous connectés pour méditer avec nous. Qu'ils soient bénis avec l'amour de la parole ce soir. La deuxième annonce, c'est que nous avons des difficultés avec l'email que nous envoyons de méditation enregistrée avec toutes sortes de piratage et même les groupes Google qui vont augmenter le prix. Bref, cet email est carrément fermé. Et en attendant que nous fassions une autre liste, je demanderai aux frères et sœurs qui nous suivent, soit en différé partout dans le monde, soit nos membres, d'aller dans notre site www.fimes.info. /audio/méditation. Toutes nos méditations enregistrées sont postées dans notre site, donc on peut les suivre même si on n'a pas reçu des emails. Voilà ce que je voulais préciser. Merci.
Merci beaucoup. Pasteur Richard, pourriez-vous prier, s'il vous plaît? Papa Richard. Ok, le frère Richard semble être loin du téléphone. Notre Dieu, nous te bénissons pour ces enseignements ce soir. La vie de cet homme Ésaü qui nous renseigne, Seigneur, sur le caractère profane de la vie. C'est tellement facile aujourd'hui, Seigneur, d'être attiré par les biens, par le monde, par toutes ces choses matérielles qui nous entourent, que nous voyons et qui nous attirent aussi, Seigneur. Mais ô combien, Seigneur, est agréable pour tous ceux et celles, Seigneur, qui se confient en toi, qui vivent selon toi, qui veulent, Seigneur, expérimenter cette bénédiction, le projet que tu as de te constituer un peuple mis à part pour toi, un peuple qui vit selon toi et pour toi. Seigneur, entre ces deux personnages, Ésaü et Jacob, bien que tous deux, Seigneur, étant limités, faibles et pécheurs, nous voyons, Père, combien c'est important d'être à ta suite, de marcher, Seigneur, avec toi. Et nous désirons, Père, comme Jacob, endosser le projet que toi tu as, afin, Seigneur, de vivre selon toi. Tu nous as créés, tu nous as fait. Certainement, Seigneur, c'est pour un but. Nous sommes sur cette terre, non pas par hasard, Seigneur. Et donne-nous, Père, de servir aux intérêts de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, de réaliser le but pour lequel nous avons été créés. Nous voulons, Seigneur, te confier notre frère Thomas Mabiala, avec toute la famille, Seigneur. Il est éprouvé. Il y a deux décès, Seigneur, en ce moment. Nous voulons te les recommander, Père, et tous les membres de la famille, tous ceux qui sont directement touchés par ces décès, Seigneur. Nous te prions, toi, le Dieu de toute consolation, accepte de prendre ta main, Seigneur, pour les entourer de ta grâce. Seigneur, tu sais ce que tu fais, Seigneur. Ta parole dit que tu es Dieu en nous créant, Seigneur, que ton livre sont tous inscrits les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux existe. Te prions, Seigneur, que tu étendes ta main, afin, Seigneur, de relever tous ceux qui sont à terre en ce moment, dans cette situation. Nous te demandons, Père, de les visiter, les consoler, les relever, Seigneur. Tu connais certainement ce que la douleur de perdre fait dans le cœur humain. Toi-même connaissant, Seigneur, cette douleur lorsqu'un ami était décédé, tu avais pleuré. Nous te prions, toi qui connais la douleur humaine, merci de visiter notre frère. Merci d'encourager toute la famille. Merci de te révéler. Merci de te montrer à eux, Seigneur, qu'ils sachent que tu es Dieu. Qu'ils sachent, au Père, que tu domines même dans des situations aussi graves, Seigneur, que la mort. Merci, Père, pour ta paix et ta consolation dans la famille. Nous nous recommandons tous à toi ce soir, Seigneur. Merci de faire asseoir, Seigneur, toutes les vérités que nous avons assimilées ce soir dans nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, de te rechercher, toi, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Que ta paix nous accompagne, que ton amour nous anime et que ta communion nous caractérise. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.
Amen.
Voilà, bonne soirée à tout le monde et à demain.
À demain.